Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Patience Ngalula. À la une de ce journal, démarrage ce mardi à Goma du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC. C'est le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a présidé la toute première réunion du comité de pilotage. Drame dans les Tanganyika, un crocodile a happé une femme et son fils. Le reste de leur corps ont été retrouvés ce lundi au village Kilindila, sur les littorales du lac Tanganyika, dans les territoires des Kalemie. L'invité de ce journal est Luc Kabunangu, expert en audit interne. Il fait le point sur les missions de contrôle et suivi des entreprises dans les secteurs de la sous-traitance, facteur favorisant la bonne gouvernance dans ces secteurs. Bonjour à tous. La ville de Goma accueille ce mardi la toute première réunion du comité de pilotage du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC, Star Est. En séjour à Goma depuis ce lundi 5 août 2024, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, préside cette réunion. L'objectif, selon lui, est de lancer officiellement les projets en amenant les bénéficiaires à s'en approprier. Bernardin Nyangui.
Lancé en novembre 2023, ce projet quinquennal sera exécuté dans au moins 14 territoires de provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri. Il prévoit de réhabiliter les infrastructures socio-économiques et de promouvoir la réinsertion des ex-combattants sortis de groupes armés dans ces entités, entre autres. L'atelier tenu ce mardi à Goma vise ainsi à donner officiellement le coup d'envoi des activités, a dit le vice-premier ministre de l'Intérieur. Écoutons Jacquemain Chabani.
L'objectif de l'atelier est premièrement d'assurer le lancement du projet, favorisant l'appropriation du projet par les bénéficiaires directs et indirects, ainsi que les parties prenantes. Deuxièmement, organiser la première réunion du comité de pilotage pour la validation du plan de travail et budget annuel pour l'exercice 2024.
Rappelons que le gouvernement congolais bénéficie d'un prêt d'environ 250 millions de dollars des partenaires, entre autres la Banque mondiale, pour le financement de ce projet. Celui-ci reste confronté cependant aux menaces de la rébellion du M23 dans au moins 4 territoires bénéficiaires. Ce sont entre autres les territoires de Lubero, Masisi, Rutshuru pour le Nord Kivu ainsi que Calais pour le Sud Kivu. Goma, Bernardin Nyangui, Radio Kapi.
Restons au Nord Kivu. La situation demeure tendue ce mardi dans l'enclave des pêches de Nyakoma. C'est sur la côte sud-est du lac Édouard, dans les parcs nationaux des Virunga. Certaines sources affirment que les rebelles du M23, qui auraient renforcé depuis lundi soir leurs troupes à Ishasha, avanceraient depuis ce matin vers ces villages de pêche. Par conséquent, la panique se propagerait actuellement dans cette entité où sont concentrés tous les combattants Maïmaï et FDLR après leur repli de l'axe Ishasha-Nyamilima. Si jusqu'à cette fin de matinée, les rebelles M23 ne sont pas encore à Nyakoma, sur place, les déplacements de certains habitants quittant l'enclave par pirogue vers le Grand Nord s'intensifient. Toujours au Nord Kivu, cela fait plus de 20 mois que les 40 agents de l'antenne de Lubero-Butembo du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS n'ont pas touché leur salaire. Les lundis passés, ils sont entrés dans leur troisième semaine de sit-in devant leur bureau de Butembo afin de réclamer le paiement de leurs arriérés des salaires. Malgré leur situation, ces agents continuent à assurer un service minimum, a indiqué Mumbere Mugeni Amini, le chef des services sensibilisation, communication et médias. Il explique au téléphone d'André Kitenge.
Les agents du PDDRCS antenne de Lubero, tout comme la ville de Butembo, continuent avec les sit-in autour du fait. Et aujourd'hui, nous venons d'atteindre plus de 22 mois impayés, c'est-à-dire nous sommes maintenant dans le 23e mois. Et nous n'allons pas quitter ici. Voilà que nous sommes devenus victimes de notre prestation au sein d'une institution qui prône vraiment la pacification. Nous demandons à tous les partenaires qui travaillent avec le PDDRCS, à la communauté internationale, pour que ces derniers aussi puissent plaider a fait que les agents du PDDRCS de l'antenne de Lubero-Butembo soient vraiment payés à totalité. C'est pourquoi nous continuons toujours à allumer le feu et nous sommes là en train même de recevoir certains combattants qui sont fatigués même de la guerre et qui sont en train de nous rejoindre. C'est pourquoi nous montrons aux gens qu'il y a un service minimum qui est en train de se faire.
En RDC, et plus particulièrement au sud Kivu, le nombre de cas de monkeypox est en augmentation depuis plus de 2 ans. Médecins sans frontières constate que les choses se sont aggravées ces derniers mois avec une explosion du nombre de cas. Jean Kassami a exploité les rapports de MSF. Voici son reportage.
D'après Médecins sans frontières, la maladie est reconnue comme endémique dans 11 de 26 provinces du pays. Le nombre de cas a triplé en 2023 avec plus de 14 600 cas suspects notifiés et 654 décès. En 2024, la situation s'est encore aggravée. De janvier à la mi-juillet, plus de 12 300 cas suspects ont été notifiés et 23 provinces affectées. L'accélération de l'épidémie est inquiétante, d'autant plus qu'une mutation génétique a été identifiée au sud Kivu avec désormais une transmission d'humain à humain. Un autre motif d'inquiétude est que la maladie a été enregistrée dans le camp des déplacés autour de Goma au nord Kivu, où l'extrême densité de la population rend, selon MSF-RDC, la situation très critique. MSF appelle à une mobilisation de tous les acteurs afin de s'investir dans la riposte et que les populations les plus à risque soient protégées au plus vite par la vaccination. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
En Ituri, 3 éléments d'autodéfense Zaïre qui seraient de connivence avec les rebelles du M23 sont aux arrêts et 3 autres interpellés. C'est les premiers résultats des enquêtes en cours menées à Tchomia par l'auditorat supérieur près la cour militaire. Cela après les attaques simultanées de ces groupes armés contre les positions des militaires de la force navale le mercredi 31 juillet dernier à Kasseni et Tchomia sur les littorales du lac Albert. Ils sont poursuivis pour crimes de guerre par meurtre et participation à un mouvement insurrectionnel. Martial Kizabiamungu.
D'après des sources judiciaires, des jeunes appartenant au groupe d'autodéfense Zaïre se sont organisés pour attaquer simultanément mercredi 31 juillet les positions de la force navale à Kasseni et Tchomia. L'objectif, selon les enquêteurs, était de se ravitailler en armement et munitions pour déloger les forces loyalistes dans toute la région située sur les littorales du lac Albert à la frontière lacustre avec l'Ouganda. Cela après avoir réussi la formation militaire par les instructeurs rwandais proches du M23 à Bois, à quelques kilomètres de Tchomia. Tibassima Gabunga, Patrick, un des miliciens Zaïre, a réussi à s'échapper le jour de l'attaque de Tchomia, appelle ses compagnons d'armes à se rendre aux autorités pour contribuer à la paix dans la région.
Les Rwandais, aussitôt arrivés, ils nous ont formés pendant 2 semaines. En attendant l'arrivée des munitions du Rwanda, ils nous ont donné la mission d'aller attaquer les états-majors de la force navale à Kasseni et Tchomia, en vue de récupérer leurs armes et nous les distribuer. Les conseils que je leur donne est de remettre les armes pour que la population vive en paix.
L'avocat général à l'auditorat supérieur militaire indique qu'une information judiciaire est ouverte contre le général autoproclamé de cette milice Mandro, l'ancien seigneur de guerre chef Kawa Panga Mandro en fuite Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Justice, procès contre la force du progrès, le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe a fini d'identifier hier lundi tous les 75 prévenus arrêtés. C'était en chambre foraine au commissariat provincial de la police dans la commune de Gombe. Les juges ont ainsi entamé l'instruction qui va se poursuivre aujourd'hui. Appelé Baïké, ces éléments de la force du progrès s'identifient à la bande de la DGC aux zones dont le chef est Ngandou Kennedy alias Antibal. Ils sont accusés notamment de participation aux violences, pillages, tentatives de déguerpissement forcé de l'immeuble Kamoul Inter ainsi que de l'attaque de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila au quartier Gelem. Au Congo central, les checkpoints érigés par le service de sécurité sur la route nationale numéro 1 pour contrôler les mouvements d'entrée et de sortie des personnes depuis la dernière tentative de coup d'État manquée font grincer les dents. Pour les voyageurs qui les dénoncent, ces lieux sont devenus de véritables sources de tracasseries pour les usagers de la RN1 Kinshasa Matadi. D'après les témoignages recueillis, cette opération qui en principe vise l'identification des passagers s'est transformée en une activité lucrative effective pour les agents de sécurité à cette tâche. Les points avec Nana Plurich-Mambou.
Depuis la dernière tentative de coup d'État au Palais de la Nation le 19 mai dernier, les services de sécurité ont érigé des barrières sur plusieurs points stratégiques. Ici s'effectue un contrôle systématique de tout passager pour vérification des pièces d'identité comme les passeports, cartes d'électeur et autres documents valides. Cependant, plusieurs usagers de cette route affirment que dans ces checkpoints, les voyageurs qui ne possèdent aucun document d'identité sont soumis au paiement d'une somme forfaitaire pour ne pas se faire arrêter. Témoignage.
Je suis rentré à la maison sans même une chikwang pour mes enfants parce que partant de Kinshasa pour atteindre Matadi, j'ai été arrêté dans 5 barrières. Et d'Achankin, j'ai payé 2000 francs.
Agacé par cette pratique, ces derniers invitent les autorités à y mettre de l'ordre. Ils demandent aussi à l'ONIP de disponibiliser rapidement la nouvelle carte d'identité pour permettre à la population de se soumettre aisément à cet exercice de contrôle.
Depuis que le gouvernement, à travers l'ONIP, a promis aux Congolais la nouvelle carte d'identité, ça fait bientôt 6 mois. On n'a toujours pas cette carte. Et pourtant, les Congolais se promènent avec des papiers. Ce sont des papiers parce que dans cette carte de lecteur, il n'y a plus de photos, non plus des écrits.
Matadi, Nana Plurich-Mambou, Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, je le disais au sommaire, les restes d'une femme et de son enfant ont été retrouvés ce lundi au village Kilindila sur les littorales du lac Tanganyika dans les territoires des Kalemie. D'après l'administrateur du territoire, il s'agit des victimes qui ont été happées par un crocodile ce dimanche. Elles se sont rendues au lac pour puiser de l'eau. John Mutombo rappelle à la population de sa juridiction que c'est dangereux de fréquenter les lacs après 17 heures. On l'écoute dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
C'est un sentiment de tristesse. Je suis vraiment profondément touché de la perte d'une maman et un enfant. J'avais demandé à la population de ne plus fréquenter les lacs à partir de 17 heures. Puisque vous savez, ces bêtes souvent, c'est vers ces heures-là qu'ils commencent aussi à circuler. Et tout ça, bon, c'est arrivé. Ce n'est pas quelque chose-là qu'il faut négliger. Ça commence un peu à me déranger un peu psychologiquement. Mais j'avais envoyé les lettres de refoulement, ça fait déjà un mois. Ce que moi, je peux demander à la population, c'est de plus vraiment fréquenter les lacs à partir de 17 heures. Vraiment, c'est très important pour se protéger.
Politique, dépôt des candidatures aux différents postes du bureau définitif du Sénat hier lundi. L'opposant Salomon Kalonda du Parti Ensemble a déposé sa candidature au poste des rapporteurs adjoints. Il affirme vouloir faire une opposition républicaine au bureau du Sénat en occupant ces postes, son parti étant la première force politique de l'opposition, dit-il. Il estime que la pensée unique ne fait pas avancer la démocratie. On écoute le sénateur Salomon Kalonda au micro d'Alain Irung.
Vous savez que Ensemble pour la République s'est résolu de faire de l'opposition républicaine. Heureusement que notre démocratie prévoit cette pluralité à tous les niveaux. Et donc au niveau des institutions, l'Assemblée nationale et puis au Sénat, l'opposition doit être représentée au niveau du bureau. Nous sommes déjà au bureau de l'Assemblée nationale et aujourd'hui c'est le tour du Sénat. Et donc mon parti Ensemble pour la République m'a investi comme candidat de l'opposition. Comme vous savez, Ensemble, c'est la première force d'opposition en République démocratique du Congo. Et donc, c'était pour moi une obligation républicaine d'aller déposer ma candidature pour les postes réservés à cette opposition, c'est les rapporteurs adjoints. Vous savez que la parole unique, ça ne peut pas développer un pays, ça ne peut pas faire vivre la démocratie. Et donc, nous allons apporter ce son des cloches autres pour permettre à ce que cette République reste démocratique.
Notez que Salomon Kalonda se dispute ses postes de rapporteur adjoint avec Jean-Claude Bayende, un autre opposant. Dans les Maniema, investi le 31 juillet dernier, le gouverneur de province Moussa Kabankoubi Moïse a tenu ce lundi 5 août sa première réunion du Conseil des ministres. Au cours de cette rencontre, l'autorité provinciale a exhorté et appelé les membres de son gouvernement à un travail bien fait pour l'intérêt de la population tout entière. Un extrait du compte rendu de ces conseils avec le ministre de l'Intérieur faisant intérim du porte-parole du gouvernement provincial, Lawamo Selemani Taylor, choisi par Florence Kizalunga.
Son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, a exhorté les membres de son gouvernement de travailler pour l'intérêt de la population afin de résoudre les problèmes majeurs de cette population et surtout avec comme problématique projet résultat pour chaque ministre et surtout de se poser chacun dans son secteur qu'est-ce qu'il a fait, c'est-à-dire les bilans qu'il doit présenter à la population. Sur l'état de la province, le ministre de l'Intérieur, le ministre sectoriel a démontré que la situation dans la province du Maniema est relativement calme. En dépit de quelques cas isolés, des vols ainsi que des braquages, des barrières érigées dans certains endroits juste après les affrontements qu'il y a eu la semaine passée entre des fractions des miliciens. Toujours sur cette question, l'autorité provinciale a promis dans un avenir très proche, il va signer un arrêté portant suppression de certaines barrières. Parce qu'au stade actuel, on en a trouvé vraiment plus de 180 et aussi les services qui doivent œuvrer à ces barrières-là.
Actualité internationale.
La candidate démocrate Kamala Harris a choisi Tim Walz pour être son colistier en vue de l'élection présidentielle du 5 novembre prochain aux États-Unis, rapporte ce mardi 6 août plusieurs médias américains tels que CNN et l'agence de presse Associated Press. À seulement 3 mois de l'élection, les fameux tickets désormais formés par la vice-présidente et Tim Walz a peu de temps pour se faire connaître et convaincre les électeurs.
L'invité.
Expert en audit interne, Luc Kabunangu encourage l'émission des contrôles et suivi des entreprises dans les secteurs de la sous-traitance. Invité des Radio Capi ce mardi, il estime que cela permettra aux régulateurs, j'y arrive, de ces secteurs de prendre des sanctions à l'endroit des réfractaires aux lois édictées par l'État. Luc Kabunangu souhaite également que ces secteurs de la sous-traitance assurent la protection des emplois des Congolais et réduisent la pauvreté en facilitant l'émergence d'une classe moyenne au pays. Il répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Luc Kabunangu.
Bonjour Monsieur Blaise.
Quelle est selon vous l'importance de la sous-traitance dans un pays à économie extravertie comme la RDC?
On a constaté que l'économie est pratiquement entièrement contrôlée par des étrangers. Et cela a différentes conséquences, entre autres sur la pauvreté de la population congolaise en général, mais aussi sur l'emploi. Les dirigeants du pays avait trouvé comme solution pour corriger ce déséquilibre de voter une loi qui permette à ce qu'on puisse ouvrir la participation des Congolais. Parce qu'on a constaté que l'économie était plus contrôlée par
les étrangers.
Et ainsi, on a passé la loi qui fixe les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, qui avait 3 missions principales, mais l'une des missions, c'est celle d'ouvrir les marchés, de sécuriser certains marchés d'affaires, qu'on appelle des marchés de sous-traitance, donc des activités annexes à l'activité principale d'une entreprise ou des activités connexes que l'entreprise choisit de céder aux entreprises tierces à sa place pour les exécuter. L'importance de cela, comme je l'ai dit, c'est justement pour redresser un peu le déséquilibre et commencer à créer de la richesse locale, créer de l'emploi pour les Congolais et pourquoi pas, en faisant la promotion de la petite et moyenne entreprise, arriver à élever aussi des capitaines d'industrie congolais.
Vous êtes expert en sous-traitance, expert en audit interne et externe. Quel bilan dressez-vous de la sous-traitance congolaise?
Par observation, analyse et le suivi que nous faisons sur le secteur, nous pensons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire parce que vous vous rendrez compte, à ce jour, nous n'avons jamais eu de rapport compréhensif de la part de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, qui est l'entité à qui a été dévolue la mission de veiller à l'application effective de cette loi. On nous a parlé, il n'y a pas longtemps, des rapports partiels, mais nous ne voyons rien clairement. Et si nous essayons d'évaluer, parce que l'estimation est que le secteur de sous-traitance, le secteur privé, commande un chiffre d'affaires de plus ou moins 10 milliards de dollars à 15 milliards de dollars. Donc ce sont toutes ces affaires qui devraient normalement être sécurisées, dirigées vers les Congolais, qui devaient passer entre les mains des entrepreneurs congolais. Mais si nous faisons l'évaluation par observation, nous doutons même que nous puissions arriver à 2 milliards de dollars qui passent entre les mains des Congolais.
Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour changer exactement les fusils d'épaule?
Je pense que nous devons nous assurer aussi d'un bon management du secteur qui puisse veiller à ce que la mission soit réalisé. Et à partir du bon management, on peut commencer à toucher des questions spécifiques. Je pense déjà, en étant dans l'expertise dans le secteur, il y a les questions de contrôle. Nous n'avons jamais su quel est l'univers total de contrôle de la sous-traitance dans le secteur privé. De deux, combien de missions de contrôle que nous devons réaliser l'année? Par exemple, nous n'avons pas ces détails. Ce que nous ne savons pas aussi, c'est que combien de contrôles il y a eu sur une période spécifique. On n'a jamais eu cette information-là. On n'a jamais entendu des sanctions appliquées à quiconque qui ne respecte pas la loi.
Si on vous demandait de prodiguer des conseils au régulateur national, qu'est-ce que vous diriez?
Au niveau du contrôle, nous devons savoir qui est-ce que nous contrôlons. Et quelle est la capacité que nous devons avoir pour contrôler et quels sont les tests de contrôle que nous devons réaliser. Et le contenu local va au-delà du secteur privé. Donc on veut vraiment promouvoir les ressources locales, que ce soit le capital humain, là où nous avons la main-d'œuvre, là où nous avons tous nos travailleurs, toutes nos compétences. Nous voulons sécuriser la place des Congolais avant d'importer la main-d'œuvre extérieure.
Monsieur Lick Kabunangu, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, Monsieur Blaise.
Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'information mise en onde par Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa sous la supervision et coordination de Pele Kipela Mondo et Blaise Shindani Kambala. Patience Ngalula Mbombo vous l'a présenté. Merci à vous tous de l'avoir suivi.